Vous écoutez bien RFI, il est 8h à Chancey au Pérou, 9h à Cap-Haïtien.
Anne Contner.
Nous sommes ensemble pour une demi-heure encore consacrée à l'actualité du continent américain. Nous irons dans le nord d'Haïti, dans la deuxième ville du pays, plutôt épargnée par les violences, mais où l'on craint beaucoup l'arrivée de membres de gangs. Reportage de nos envoyés spéciaux dans un instant. Nous parlerons aussi des sanctions américaines contre le régime Maduro au Venezuela. Washington pourrait resserrer l'étau. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer en Guyane, Tiziana Maron, pour parler d'une saisie record de cocaïne.
Oui, 303 kilos de cocaïne dissimulés dans du fret ont été découverts à l'aéroport Félix Eboué. Plus de détails dans quelques minutes, Anne.
A tout à l'heure, Tiziana Maron.
RFI Midi.
Mais avant, on va revenir sur les principales informations dans le monde avec vous, Mayol de Charon, bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
C'est la dernière ligne droite. Dans 100 jours exactement, Paris accueillera les Jeux Olympiques.
Et l'heure est au dernier préparatif. Le Stade de France, qui accueillera les épreuves d'athlétisme et de rugby à 7, continue sa rénovation. Après le remplacement des sièges et l'installation de nouveaux écrans géants, c'est à la piste d'être posée. Elle était bleue à Rio en 2016, ocre à Tokyo il y a 3 ans. Elle sera violette à Paris cet été. Une première, le reportage de Kylian Tanguy.
Poser la colle, dérouler la piste, installer des briques pour l'adhérence, les ouvriers sont les premiers à fouler cette piste d'une couleur encore jamais vue en athlétisme.
Une piste violette.
Alain Blondel, le responsable des épreuves d'athlé de Paris 2024.
Avec des tons différents, un ton un peu plus clair pour la piste, un peu plus foncé pour ce qu'on appelle les zones de service. Et avec une relance dans les bouts de virage, avec du gris qui est là pour rappeler les pistes encendrées, dont celle qui était présente en 1924, il y a 100 ans, lors de la dernière présence des Jeux Olympiques ici à Paris.
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques doit prendre possession des lieux le 1er juin. Maria Lecor, la directrice adjointe des projets et des travaux du Stade de France, n'est pas inquiète. Tout sera terminé dans les temps.
On a commencé il y a environ 2-3 semaines la pose du tartan. Il y a un mois de pause avec une météo clémente évidemment. Et ensuite on passe au traçage et les traçages vont durer plusieurs semaines aussi.
Certains athlètes en tout cas s'y voient déjà, comme le confie l'ancien décathlonien Alain Blondel.
Le peu à qui j'ai eu l'occasion de montrer quelques photos ont été enchantés de voir cette couleur. Pour quelques-uns, ça a rappelé quelques pistes avec des tons assez proches sur des universités américaines.
Le violet ne sera pas réservé à la piste d'athlétisme. La couleur fait partie de la charte graphique de Paris 2024. On la retrouvera donc sur de nombreux sites des prochains JO.
Kylian Tanguy, en amont de ces Jeux Olympiques, de nombreuses associations pointent du doigt une nouvelle preuve du nettoyage social de Paris après l'évacuation ce matin du plus grand squat de la région parisienne. Il a abrité jusqu'à 450 migrants, pour la plupart en situation régulière, selon les associations. Et de nombreuses incertitudes continuent de planer sur ces Jeux Olympiques. Parmi elles, les conséquences des tensions internationales exacerbées, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient. Le Hezbollah affirme avoir attaqué ce matin une base militaire dans le nord d'Israël en riposte à la mort d'au moins 3 combattants hier dans des frappes israéliennes. Les négociations pour faire cesser le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza piétinent, affirme le Premier ministre du Qatar. La guerre qui a fait 33 900 morts selon le Hamas continue de susciter des mouvements de protestation aux États-Unis. Hier, c'était au tour des employés de Google de manifester contre leur propre compagnie. Ils accusent le géant de la tech de fournir à Israël des programmes, notamment de surveillance utilisés contre les Palestiniens. Loubna Anaki.
Google alimente un génocide, chantent ces manifestants devant les locaux new-yorkais du géant américain. Parmi eux, des employés qui disent ne plus vouloir garder le silence.
Les employés en ont marre de voir leur travail utilisé pour commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Aujourd'hui, ils disent stop, stop.
Je refuse de fermer les yeux quand mon employeur alimente la destruction et la mort. Je refuse de ne rien dire alors que mes collègues sont victimes de représailles. Je refuse de me taire. Parce que je suis juif et je me battrai toujours pour la justice.
Ces employés dénoncent les contrats entre Google et Israël. L'un d'eux, d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, concerne le projet Nimbus, projet d'intelligence artificielle qui, selon les manifestants et certains médias, serait utilisé par l'armée israélienne pour ses opérations militaires à Gaza, mais aussi pour surveiller les Palestiniens. Baptisé « Pas de technologie pour l'apartheid », cette campagne vise également à dénoncer les procédures prises par la direction contre ses employés.
Nous avons été visés par la direction, obligés de garder le silence. Certains ont été poussés à démissionner ou ont été licenciés. C'est devenu un environnement stressant et délétère.
Des manifestations similaires à celles-ci ont également eu lieu devant d'autres bureaux de Google, notamment en Californie et dans l'État de Washington. Lubna Anaki, New York, RFI.
On va parler d'environnement à présent. La Colombie, face à la difficile gestion de l'eau, Mayol.
La mairie de Bogota va infliger des amendes aux gaspilleurs après la mise en place d'un rationnement sans précédent et qui n'a pas donné les résultats attendus. Autre conséquence de cette sécheresse, le pays a annoncé qu'il cessait d'exporter de l'électricité vers l'Équateur. Les explications à Derasmo Rodriguez, hydrologue à l'Université nationale de Colombie.
Les deux tiers environ de l'énergie produite dans le pays proviennent des centrales hydroélectriques. Ces centrales sont majoritairement situées dans la région andine et dans la région caribéenne. Et ce sont les deux zones qui connaissent une période relativement sèche avec de faibles précipitations au cours des mois de janvier, février et mars. En plus, cela a coïncidé avec le phénomène El Niño qui intensifie la sécheresse. Donc les précipitations de ces trois derniers mois ont été trop faibles. Cela fait au moins 25 ans que les réserves d'eau dans les barrages n'ont pas été aussi basses. Car même sans pluie, les barrages doivent continuer à produire de l'électricité. Et la seule manière de le faire, c'est d'ouvrir les vannes. Par conséquent, le niveau de la réserve baisse encore et cela amenuise d'autant la capacité de production d'électricité. Espérons que cela n'arrive pas, mais il n'est pas impossible qu'il faille rationner l'énergie à certains endroits dans le pays.
Des propos recueillis par Melissa Barra du service de RFI en espagnol, et c'est l'une des autres conséquences du réchauffement climatique en Australie. La grande barrière de corail est frappée par le pire épisode de blanchissement jamais observé. 73% de ses récifs sont endommagés selon les autorités.
Puis le Canada veut taxer davantage les riches.
Le gouvernement libéral de Justin Trudeau l'a annoncé hier en présentant une nouvelle version de son budget fédéral pour 2024. L'exécutif promet aussi d'aller beaucoup plus vite dans la construction de logements neufs. Justine Fontaine.
Dans un pays où les loyers et les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers ont explosé, la ministre du budget, Chrystia Freeland, a promis devant le Parlement de construire près de 4 millions de logements en 7 ans.
Pour commencer, nous voulons construire plus de logements, à un rythme et une échelle jamais vus depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Et pour financer cela, l'exécutif compte récupérer 18 milliards de dollars canadiens, environ 12 milliards d'euros sur 5 ans, en taxant davantage les riches.
Aujourd'hui, un charpentier ou une infirmière peuvent avoir un taux d'imposition plus élevé que celui d'un multimillionnaire. C'est injuste. Cela doit changer et cela changera.
Cela passera notamment par une hausse des impôts sur les plus-values lors des ventes d'actions ou les ventes immobilières pour les 0,1% les plus riches. À un peu plus d'un an des élections, le Premier ministre Justin Trudeau est à la traîne dans les sondages face à son rival conservateur. Ses annonces visent notamment à séduire les jeunes, alors que la situation économique est morose et que la croissance ne devrait pas dépasser 0,7% cette année.
Justine Fontaine, 13h07 en temps universel. RFI Midi continue avec Anne Cantner.
Merci Mayol de Charon. RFI Midi, suite et fin. Nous irons en Équateur, au Venezuela et en Haïti tout de suite.
RFI Midi, Cap-Haïtien, 100.5 FM.
À Cap-Haïtien, où se trouvent nos envoyés spéciaux, deuxième ville du pays dans le nord d'Haïti. Cap-Haïtien est relativement épargné par les violences qui paralysent la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et les autorités, d'ailleurs, font tout pour éviter une contagion. Vous vous souvenez peut-être qu'un chef de gang présumé a été arrêté au début du mois à l'aéroport. Celui de Cap-Haïtien est le seul à permettre encore de prendre l'avion vers l'étranger. Et la ville accueille de très nombreux déplacés venus de la capitale. Des déplacés qui font l'objet de nombreux contrôles afin d'éviter que des bandits, des groupes criminels ne se glissent parmi ces déplacés et s'infiltrent à Cap-Haïtien. Écoutez le reportage de Vincent Souriau et Boris Vichit.
C'est un casse-tête qui demande beaucoup de doigté. D'un côté, il n'y a aucune raison de soupçonner ces déplacés qui fuient les violences. De l'autre, il faut à tout prix mettre en place un filet de sécurité pour éviter que des profils criminels n'atteignent les faubourgs de la ville. Niveau de vigilance maximal pour les services municipaux, la justice et la police qui ont renforcé leur coopération. Patrick Arbonor, le maire adjoint de Cap-Haïtien.
Nous, au niveau de la municipalité, nous demandons à toutes les personnes venant de Port-au-Prince, ces personnes-là doivent passer à la municipalité pour dire à la municipalité qu'elles sont là. Maintenant, avec cette base de données, on pourrait faire une analyse. On va savoir quel pourcentage de gens venaient de Port-au-Prince pour venir habiter au Cap-Haïtien. Il y a de bons gars, il y a de mauvais gars aussi. C'est-à-dire, ceux qui sont bons vont venir à la municipalité, mais ceux qui ne sont pas tout à fait corrects vont essayer de débrouiller par leurs propres moyens.
Oui, il y a forcément des trous dans la raquette et les registres le montrent. Entre le 27 mars et le 11 avril, à peine 15 personnes sont venues s'enregistrer en mairie, un chiffre dérisoire au regard des flots de population qui arrivent dans la région. Impossible d'avoir des yeux partout, mais Charles-Édouard Durand, le commissaire du gouvernement, l'équivalent en France du procureur de la République, reste très calme. Jusqu'ici, dit-il, nous sommes parvenus à contenir les troubles avec une politique pénale très agressive.
On met beaucoup d'énergie pour d'abord aller contrer les foyers ou les mini-foyers de bandits ou de gangs qui essaient de se développer. C'est comme si on les tue à l'œuf. Je ne sais pas si l'expression est bien utilisée, mais on essaie de prévenir le développement de certains et certaines zones que nous considérons comme criminogènes.
On ne saura pas quels procédés précis sont employés par la police, question de sécurité, mais l'inspecteur divisionnaire Harold Dejean, le porte-parole de la PNH à Cap-Haïtien, insiste sur le rôle crucial des citoyens. C'est grâce à eux si la deuxième ville du pays reste sûre et n'a pas connu de flambée de violence.
De mars à avril, et la police est intervenue dans plus d'une centaine de cas où les gens nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont remarqué des inconnus dans leur communauté. Donc nous, à chaque fois, on fait le fichier signalétique de ces gens, vous voyez, question d'essayer de les mettre sous contrôle. Mais avant, dans les deux dernières années, la police a démantelé un ensemble de gangs qui fonctionnaient, disons, dans les banlieues de Cap-Haïtien et dans d'autres zones du département. Ceci nous a valu le climat de paix que nous vivons actuellement. Et la police continue le démantèlement de ces gangs. Par exemple, au centre-ville, on avait des gangs qui braquaient des commerçants, des choses comme ça. Et nous avons mis en place des stratégies très efficaces, je peux dire, qui ont pu amener à leur démantèlement. Et dans d'autres zones, nous avons des gangs qui fonctionnaient, des gangs qui braquaient les camions qui passaient sur la route, tout ça. Et une grande partie de ces gangs est démantelée. Et nous travaillons encore sur d'autres cas pour continuer, je peux dire, à anticiper sur ce qui peut arriver. Donc je pense qu'il y a de l'espoir quand même.
Tout le monde voit bien ici ce qu'il se passe à Port-au-Prince, conclut un cadre de la police, et personne dans notre juridiction n'a envie d'importer ça chez nous. Vincent Souriau, Boris Vichit, Cap-Haïtien, RFI.
La peur de la contagion des violences à Cap-Haïtien et à Port-au-Prince, la situation sécuritaire et politique n'évolue pas ou peu. La presse se fait l'écho des longues heures de confusion et d'un pas en avant hier. Ça y est, les membres du Conseil présidentiel de transition ont enfin été désignés. 9 noms publiés au journal officiel. En théorie, cela devrait accélérer la sortie du gouvernement Henri. Abla Jounaïdi, il y a du progrès, mais tout est encore à faire.
Oui, vous l'avez dit, l'arrêté portant les 9 noms a été publié au journal officiel et sur le compte X de la primature. Les 7 groupes et partis politiques représentatifs et le secteur privé, ainsi que les 2 observateurs sans droit de vote. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Fritz-Alphonse Jean, l'entrepreneur Laurent Saint-Cyr et l'ex-président du Sénat Edgar Leblanc, fils entre autres. En principe, ces 7 membres doivent désigner un Premier ministre rapidement pour prendre la place d'Ariel Henry, qui devra alors démissionner. Mais à lire le nouvel ce matin, on se demande quand ce conseil pourra commencer son travail. Selon le quotidien qui cite une source anonyme, le conseil aurait nommé une commission spéciale pour organiser la passation de pouvoir et aurait donné à ses membres jusqu'au jour de son installation pour désigner des premiers ministrables. Mais bien malin, qui peut donner aujourd'hui une date pour cette installation? Et ce n'est pas tout, Anne. 3 paragraphes contenus dans l'arrêté publié hier posent question aussi. On y lit que les personnalités nommées devront encore fournir des documents prouvant qu'elles sont éligibles selon la Constitution, ou à défaut, démissionner. Une étape a été franchie hier soir donc, mais il faudra une bonne dose de compromis entre les parties prenantes pour que ces quelques lignes ne menacent pas le fragile édifice et à terme une transition pacifique.
Merci Abla Jounaïdi. On suivra cela demain avec notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste.
RFI, la radio del mundo.
Les États-Unis vont-ils accentuer la pression sur le Venezuela ? La question se pose car l'allègement des sanctions, cette sorte d'exemption en vigueur depuis 5 ans, prend fin demain et Washington risque de revenir à un régime plus sévère. Les autorités américaines menacent de ne pas renouveler ce fameux allègement si le président Maduro ne tient pas ses engagements et n'organise pas des élections libres et équitables cette année. Christophe Pagé, on va commencer par un petit retour en arrière, un rappel des mesures prises par les États-Unis contre le régime Maduro.
Alors en 2018, Nicolas Maduro est réélu à la tête du Venezuela et la communauté internationale, dont les États-Unis, ne reconnaît pas cette élection boycottée par l'opposition. L'année suivante, Washington renforce donc les sanctions mises en place en 2015 après la répression brutale par Caracas de manifestations antigouvernementales et décrète un embargo sur l'or, le pétrole et le gaz vénézuélien qui affecte le pays mais pas le gouvernement, l'économiste vénézuélien Luis Oliveros.
Le gouvernement a appris à vivre avec les sanctions. Il préférerait sans aucun doute ne pas les subir, mais il a adopté certains fonctionnements de pays sous sanctions. Et il a su les contourner habilement, au moins pour se maintenir au pouvoir. En revanche, le pays a bien vu comment son niveau de vie, sa qualité de vie a baissé. La production pétrolière a chuté, le revenu pétrolier est devenu en quelques années le plus faible de notre histoire. Avec les sanctions, le Venezuela ne peut pas vendre son pétrole à son marché naturel, les États-Unis et l'Europe. Les sanctions affectent aussi les entreprises privées. Le Venezuela est devenu toxique sur les marchés mondiaux.
Alors, il y a 6 mois, pouvoir et opposition s'accordent finalement à la Barbade sur une feuille de route pour la prochaine présidentielle, élection qui est prévue en juillet de cette année.
Et juste après cet accord, il y a donc 6 mois, Caracas et Washington s'entendent sur des vols de rapatriement de migrants vénézuéliens venus aux États-Unis. Les États-Unis qui se décident donc à réautoriser l'achat d'or vénézuélien pour une période non précisée et de gaz et de pétrole vénézuélien pour 6 mois. Les fameux allègements dont on parlait. La production pétrolière remonte alors. On en est aujourd'hui à 800 000 barils par jour. Le plus bas niveau avait été atteint début 2020 avec 400 000 barils par jour. Thomas Posado, maître de conférence à l'université de Rouen.
Ça reste à des échelles de croissance extrêmement légères qui sont en plus dépendantes de ce caractère provisoire de cette levée des sanctions états-uniennes et qui sont aussi dépendantes du mauvais fonctionnement des infrastructures pétrolières vénézuéliennes. L'économiste qui estimait que pour arriver de nouveau aux 3 millions de barils, qui était le cas il y a 10-15 ans, il faudrait 120 milliards de dollars d'investissement, ce qui est des montants colossaux.
Et de fait, les investisseurs ne se sont pas précipités depuis octobre dernier.
Oui, ils préfèrent attendre une levée complète et sans limite de temps des sanctions. Or, on se dirige plutôt vers un retour de ces sanctions, car contrairement à ce qui avait été décidé, le gouvernement vénézuélien empêche depuis le début de l'année l'opposition de choisir son candidat. Il n'a pas levé l'inéligibilité de Corina Machado, la candidate choisie lors de la primaire de l'opposition l'an dernier, et il a empêché sa remplaçante de se présenter. Fin janvier, les États-Unis ont donc réactivé leurs sanctions sur le secteur de l'or, en assurant déjà, comme aujourd'hui, que si Nicolas Maduro n'avance pas vers des élections libres et équitables, les allègements sur le pétrole et le gaz ne seront pas prolongés. Il se termine ce jeudi, demain, et les dernières discussions entre Washington et Caracas n'ont rien donné. Selon l'agence de presse Reuters, l'administration Biden discutait encore il y a 2 jours de l'étendue des sanctions qui pourraient être remises en place.
Merci Christophe Pagé, on suivra ça évidemment avec la rédaction de RFI.
RFI Midi.
RFI en Colombie, où la principale dissidence des FARC quitte les négociations de paix. Les discussions en cours avec le gouvernement depuis 6 mois, mais tout le monde n'est pas d'accord. Désormais, dans le groupe que l'on appelle État-major central, on trouve des adversaires et des partisans du dialogue. Alors, quel avenir pour les négociations ? Élément de réponse avec Jorge Mantilla, spécialiste des conflits armés.
Ivan Mordisco joue un rôle très important dans la dissidence des FARC, particulièrement dans cette faction appelée État-major central. Il a été un des premiers commandants qui, en 2016, quand les anciens FARC négociaient avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, s'est opposé à cette négociation. Il rassemblait différents fronts venant de régions très éparpillées dans le pays, plus de 4000 personnes selon les calculs. La conséquence que va avoir son départ, concrètement, c'est la fin de cette organisation. Et la question qu'on leur posait toujours, c'était « Votre commandement est-il vraiment uni ?» Cela met le gouvernement dans une position dont il peut uniquement sortir en négociant avec qui il peut et où il peut. Il y a plusieurs fronts, plusieurs blocs qui ont manifesté leur désir de négocier. Pour cette raison, le format qui pourrait émerger, ce serait plusieurs dialogues régionaux de paix avec des factions spécifiques de cet état-major central.
Des propos recueillis par Mélissa Barra de la rédaction Amérique latine de RFI. La Colombie qui accueille aujourd'hui le président brésilien. Lula est arrivé hier. Il doit être reçu tout à l'heure par Gustavo Petro pour parler notamment des crises diplomatiques dans la région. La rupture des relations entre le Mexique et l'Équateur après une descente de la police équatorienne dans l'ambassade mexicaine et les crispations entre Caracas et le Chili à propos des élections à venir au Venezuela et dont on parlait il y a un instant avec Christophe Paget. La Colombie qui souffre aussi. Le système électrique du pays est très affecté par la sécheresse des lacs et des rivières. On l'évoquait dans le journal, eh bien, la situation a poussé les autorités à limiter les exportations d'électricité, notamment à destination de l'Équateur. Conséquence, le président Noboa a déclaré hier l'état d'urgence électrique. Il a demandé la démission de sa ministre de l'Énergie et il a imposé des rationnements. Lucille Gimbert, les habitants vont subir des coupures de courant de plusieurs heures aujourd'hui encore.
Fort de ses hautes montagnes et nombreuses rivières, l'Équateur produisait en 2021 près de 80% de son électricité grâce à des centrales hydroélectriques. Le reste étant généré principalement à partir de combustibles fossiles. La sécheresse, accentuée cette année par le phénomène météo El Niño et par le réchauffement climatique, met aujourd'hui en péril ce mix électrique. Fin 2023 déjà, le pays avait dû rationner le courant en raison du faible débit des cours d'eau. Le gouvernement s'était alors mis d'accord avec la Colombie pour lui acheter de l'électricité. Mais la crise électrique en Équateur n'a pas que des causes environnementales. Marco Acuña Gallo, président du Collège des ingénieurs électriques de Quito, dénonce le manque d'investissement dans des alternatives à l'hydroélectricité.
Le pays paye 20 millions de dollars à la Colombie chaque semaine pour ses importations d'électricité. C'est beaucoup par rapport au peu d'investissements faits à l'intérieur du pays pour avoir des centrales thermiques en bon état ou pour développer d'autres solutions. La part des énergies renouvelables, hors hydroélectricité, est encore très réduite par exemple, à peine 1 ou 2%.
Sont aussi pointés du doigt le manque d'entretien des infrastructures, le retard dans la mise en route de nouvelles centrales hydroélectriques et l'eau l'opacité et la corruption qui entourent la gestion du système électrique équatorien.
Les explications de Lucille Gimbert. Et puis on apprend aujourd'hui dans un rapport de l'ONG Global Citizen qu'il est possible, qu'il serait possible de mobiliser des centaines de milliards de dollars chaque année pour financer la transition énergétique et l'adaptation des pays émergents ou en développement aux conséquences du réchauffement. Ce rapport a été publié dans le cadre des discussions en cours du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aux États-Unis. La question du financement climatique est l'un des principaux thèmes abordés. Ces deux institutions assurent qu'elles font déjà beaucoup en la matière, mais plus encore, ne pas avoir la capacité d'agir seule alors que des milliers de milliards de dollars seront annuellement nécessaires pour financer les investissements.
RFI Midi.
On va retrouver maintenant nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Bonjour Tiziana Maron.
Bonjour Anne.
En Guyane, les autorités ont découvert il y a quelques jours plus de 300 kilos de cocaïne à l'aéroport de Cayenne.
Oui, Anne, dissimulée dans du fret, la drogue devait embarquer sur un vol à destination de Paris. Trois suspects ont été arrêtés et présentés hier devant la juridiction interrégionale spécialisée en Martinique. Les précisions de Laurent Marot de Guyane La Première.
Vendredi, deux hommes déposent au fret de l'aéroport des cartons bien emballés. Ils veulent les faire partir sur un vol vers Paris le même jour. Mais le passage au rayon X révèle leur caractère suspect. Les douaniers sont alertés. Ils trouvent 303 kilos de cocaïne dans les cartons, saisis record à l'aéroport Félix Éboué. Les deux hommes qui résident à Marseille devaient embarquer sur le même vol que leurs marchandises. Ils sont arrêtés dans l'aérogare, puis placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Cayenne. Dimanche, les policiers du RAID interpellent un troisième suspect à son domicile cayennais, lui aussi auditionné dans le cadre de l'enquête de flagrance pour trafic de drogue en bande organisée. Les trois suspects ont été transférés hier vers la Martinique. Ils ont été présentés devant un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France qui pilote désormais l'enquête.
Et face à l'explosion du trafic de drogue, les parquets généraux des Antilles-Guyane ont décidé d'unir leurs efforts. Les procureurs des trois régions ont mis en place hier une instance de coordination judiciaire. Les explications de Patrice Camberou, procureur général auprès de la Cour d'appel de Fort-de-France. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique La Première.
Concrètement, ça va permettre de mieux connaître entre nous les affaires dont nous sommes saisis. Ça va permettre donc d'échanger du renseignement, de mener une politique pénale harmonieuse. Si vous avez une tonne saisie en Guyane ou qu'on s'aperçoit qu'il y a une complexité particulière de l'affaire, eh bien, le parquet de Guyane va se dessaisir au profit de la Martinique. Mais si cette affaire-là est plutôt centrée sur un contexte de Guyane, eh bien, ça restera en Guyane. Donc tout ça, c'est les trois procureurs généraux et les procureurs qui vont se coordonner pour mieux définir qui fait quoi.
Et toujours en Martinique, la mobilisation des infirmiers libéraux, je vous en parlais hier, à l'appel du syndicat Convergence Infirmière, ils ont organisé devant le siège de la Sécurité sociale les obsèques symboliques de la profession. Éric Guyeuse exerce depuis 33 ans et voit son métier plus que jamais menacé. Il est au micro de Christine Cupit de Martinique La Première.
Depuis quelque temps, il y a des attaques sur notre niveau de vie, nos revenus. Il y a une grosse souffrance au travail. On ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir tenir. En Martinique, contrairement à d'autres départements français, il n'y a pas de structure. Par exemple, en France, en tétraplégique, il y a une structure qui s'en occupe, etc. Et là, en libéral, l'infirmière est toute seule avec son tétraplégique.
Et c'est le mot de la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziana Marone et à demain. Les notes du Caribbean Sextet, l'un des plus grands groupes musicaux d'Haïti, extrait de la compilation Haïti Goes Latin.
Es que viene llegando cuando pone el sol es que se levanta pero chico ya van a ser 20 años que tú estás gozando y gastando el dinero
Boss du Caribbean Sextet, l'un des plus grands groupes d'Haïti pour nous accompagner jusqu'à la fin d'RFI Midi.
RFI à Jacmel, 96.9 FM.
Merci d'écouter RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci à Yann Eligouin à la réalisation aujourd'hui et merci à vous d'avoir choisi notre radio. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes de vive voix. Pascal Paradou, au rythme des Jeux Olympiques, J-100, avant le coup d'envoi, il reçoit l'auteur et poète Louis Chevalier. Très bonne journée sur RFI.